Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va le chanter une. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ce sera notre thème ce matin, de garder son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de garder son cœur? Eh bien, à qui est-ce que c'est adressé d'abord? Eh bien, nous voyons que c'est l'audience de ce commandement, ceux qui professent avoir déjà donné leur cœur au Seigneur. Il y a les trois à remplir pour qu'on puisse les écrire. Donc, l'audience de ce commandement. L'audience. À qui est adressé ce verset de garder tout son cœur? Eh bien, c'est ceux qui professent avoir déjà donné leur cœur au Seigneur. C'est eux qui peuvent garder leur cœur. Peut-être que vous ne pouvez pas encore le garder parce qu'il n'est pas encore au contrôle, il n'est pas encore sous contrôle, il a encore besoin de devenir un cœur nouveau. Donc, le besoin d'un cœur nouveau. Le besoin d'un cœur nouveau. Jérémie 17, 9. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est ceci. Il y a un nombre de versets et on va les lire. On va prendre un volontaire la plupart du temps. Mais quand dans le verset, il y a des mots dans le caractère gras, on va tous le dire en même temps pour le souligner. Alors là, ça commence avec. Donc là, je vais dire Jérémie 17, 9, puis ensemble, on va dire le cœur. Ensuite, je vais continuer à lire. Vous êtes prêts? Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? On n'est pas né avec un cœur bon, on n'est pas né avec un cœur gentil, honnête. On est né avec un cœur tortueux et méchant. Tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Eh bien, le prochain verset est Jérémie 17, 10, qui n'est pas donné sur les feuilles, mais c'est moi, l'Éternel, qui dit, je sonde les cœurs. Dieu connaît le fin fond de notre cœur. Et oui, si vous aimeriez une Bible, il y a des Bibles ici, donc si vous n'avez pas votre propre Bible, n'hésitez pas. Alors, Jérémie 11, 8, qui veut lire? Un volontaire pour lire Jérémie 11, 8. Marc-Andy?
Mais s'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chaque...
les penchants de leur mauvais cœur. On se rappelle les caractères gras, on le se joint à lui. Vas-y, recommence ça. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur.
Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette annonce.
Très bien. Quelqu'un d'autre? Jérémie 17, 1. Un autre volontaire.
Le péché de Judas est écrit avec un duel, le père, avec une boîte de diamants.
Sur la table de leur cœur.
Et sur les bornes de vos têtes.
Alors, je pense que vous aviez pu deviner, justement, le mot manquant là, c'est cœur. Ah, j'ai oublié d'écrire le deuxième trou qui manquait. C'est le besoin d'un cœur nouveau. Le besoin d'un cœur nouveau. Très bien, Jérémie 17. 1, donc, le péché est écrit sur leur cœur. Jérémie 11, 8, on l'a lu, les penchants de leur mauvais cœur. Ça, c'est ce qu'on est né avec naturellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Alors, même dans l'Ancien Testament, la promesse d'un Rédempteur qui viendrait, même son peuple devait se faire un nouveau cœur. Et donc, Ézéchiel 18, 31. Quelqu'un pour lire Ézéchiel 18, 31. Oui?
Que j'étais loin de vous, tous les transgressions par lesquelles vous avez péché.
Faites-vous un cœur nouveau.
Pourquoi m'ouvrez-vous, mon Dieu, les
hommes? Alors, Dieu dit, le péché va vous conduire à la mort, mais faites-vous un cœur nouveau. Dieu emploie l'illustration de circoncision dans Deutéronome 9. C'est le signe d'appartenir aux descendants d'Abraham, c'était la circoncision de chair. Là, Dieu ne voulait pas juste une circoncision de chair, être à l'extérieur, quelque chose, mais il voulait que ça soit dans le cœur. Et donc, il dit au verset, Deutéronome 10, 16, « Vous, ensemble, circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. » Le peuple d'Israël était un peuple au cou raide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on essaie de faire tourner la tête, « Non, je ne veux pas, je ne veux pas les parler non plus. » Ils avaient un cœur, mais ça vient d'où, ça? Ce cou raide, ça vient du cœur. C'est pour ça qu'il leur dit, vous circoncirez votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner? Pour l'instant, on reconnaît une caverne. Ah, qu'est-ce que va devenir cette caverne? Ok, on continue. Josué 24, 23. Quelqu'un pour lire Josué 24, 23. Vas-y, Raymond. Et votre cœur vers l'Éternel. Très bien. Alors, tournez votre cœur. C'était le commandement. Le cœur n'était pas naturellement tourné vers lui. Il fallait qu'il le fasse. Ésaïe 61, 1. Comment se faire un cœur nouveau? Ben, en ayant le cœur brisé. On va le lire. Oui, Raymond, vas-y, lis Ésaïe 61, 1.
L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Dieu veut qu'on soit triste de nos péchés, puis qu'on vienne à lui, le cœur soumis, le cœur confiant dans ce qu'il a pourvu comme moyen de salut pour cette délivrance que seul lui peut apporter. Et s'il veut le cœur brisé, c'est pas pour qu'il reste brisé, c'est pour le guérir, c'est pour le mettre en droit. On va continuer. Maintenant, le besoin de garder son cœur. Le besoin de garder son cœur. Alors, quand je pense à une garde, je pensais justement un peu dans l'évolution de l'idée de ce qu'on développe ce matin. Je pensais à une illustration d'un garde devant un coffre-fort avec des choses précieuses. On va dire un peu plus loin, un peu plus tout à l'heure. Deutéronome 11, 16. Qui veut lire Deutéronome 11, 16? Un volontaire. Oui, Alexandra, on commence avec toi. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur.
De vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux.
Alors, on doit garder, se garder de laisser notre cœur être séduit. Il va avoir, après qu'on, si on vient au Seigneur Jésus-Christ, si on fait profession de foi, c'est bien. Mais là, la bataille commence. Il y en a qui vont dire, ah ouais, t'as cru en Christ, est-ce que c'est vraiment vrai? On va voir. Puis là, il y a toutes sortes de séducteurs, il y a toutes sortes de personnes qui vont venir chercher à séduire notre cœur. Deutéronome 11, 18. qui veut lire Deutéronome 18, oui, Marie-Hélène.
Dans votre cœur. Oui, dans votre cœur et dans votre âme.
Ces paroles.
Les paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sous vos mains et elles seront comme des propos en vos yeux.
C'est très bien. Est-ce qu'on peut garder notre cœur seul avec notre propre force? Non. Pour ceux qui disent, mettez dans votre cœur la parole de Dieu. C'est dans le même contexte que Dieu 11, 16 et 18. Là, c'est dans le même contexte. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Mais comment est-ce que vous allez avoir la force pour ne pas laisser séduire votre cœur? Ah, mettez ces paroles dans votre cœur. Mettez-les. Psaume 119 nous dit la même chose. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si on n'a pas le but de ne pas pécher contre Dieu, eh bien, on peut serrer sa parole par curiosité ou par simplement coutume. On a l'habitude d'apprendre un verset par semaine, alors on continue. Mais si on n'a pas le but de ne pas pécher contre Dieu, la parole de Dieu ne sera pas efficace pour nous dans ce sens-là. Mais quand on a le but de ne pas pécher contre Dieu et qu'on comprend, on ne peut pas résister soi-même, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garder son cœur, ça va être par la parole de Dieu. Mais quel est le contraire? Maintenant, sur le trône de son cœur. Ah, ben justement, qu'est-ce qu'elle dessine? Un trône. Ah, on va voir à propos de ce trône. Ben, sur le trône du cœur, est-ce que c'est Dieu ou moi qui règne? Eh bien, Dieu veut que ce soit lui qui règne. Il nous le commande. C'est le plus grand commandement. Deutéronome 6.5. Qui veut lire Deutéronome 6.5? Oui.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur. Alors ça, c'est le plus grand commandement. Eh bien, quand on a Dieu et qu'on le met sur le trône, quand on se convertit à lui, qu'on dit je ne veux pas continuer à faire à ma tête, je veux t'aimer de tout mon cœur. Eh bien, versets 6 et 9, ça va nous montrer que toute notre vie va être en conséquence de qui Dieu est. Dieu est sur le trône de notre cœur. Eh bien, ça va affecter toute notre manière de vivre. Alors, le verset 6, si vous voulez continuer à lire, vous pouvez. 6 à 9.
Tous ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu les parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu toucheras et quand tu te réveilleras. Tu les liras comme un signe visible sur tes mains et ils seront comme des tenteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Très bien. Autrement dit, ta vie entière est à propos de la parole de Dieu et l'accomplir. Et tout ce qui est dans ton pouvoir, tout ce qui est dans ton responsabilité, tu as des enfants élevés, ça va être la parole de Dieu que tu vas les inculquer. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas le choix? Oui, bien sûr, eux, ils vont devoir choisir qu'est-ce qu'ils en font. Mais c'est ta responsabilité, c'est comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, autrement dit, tout, qu'on soit chez soi, qu'on soit en voyage, n'importe où, on les inculque à ceux qui sont sous notre garde. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a une petite ficelle attachée à son doigt? C'est un petit peu caricaturisé par rapport à quelqu'un qui veut ne pas oublier quelque chose, il s'attache une petite ficelle, et là il pense à sa ficelle pour dire « Ah ouais, il faut que je fasse telle chose ». Puis il y en a qui s'attachent un petit peu sur chaque doigt parce qu'ils ont plusieurs. Là, ils ne se rappellent plus qu'est-ce qu'ils ou quoi. Mais le point, c'est qu'il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains. Rappelle-toi de la parole de Dieu. Mets-les parce que tu le vois constamment. Oh, je regardais la parole de Dieu. Alors, Dieu veut qu'on se rappelle de sa parole parce qu'il veut vraiment régner sur notre cœur. Alors, maintenant, en contraste avec le trône, où est-ce que Dieu est assis dessus, qu'est-ce qu'il y a comme contraste? Qui veut lire Ésaïe 53, 6? Ésaïe 53, 6. Oui, Marquine. Chacun suivait sa propre voie. Très bien. Être errant comme des brebis, c'est mis en équivalence avec chacun suivait sa propre voie. Qui est mis en équivalence avec, et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous, c'est chacun suivait sa propre voie. Être assis sur le trône de son cœur, c'est être rebelle à Dieu. Est-ce qu'on ne vit pas dans une société qui aime beaucoup la liberté? Et on apprécie la liberté. Quand je vois des gendarmes, je leur dis merci pour votre travail, vous défendez la liberté, la justice, merci. Vous vous mettez souvent en danger pour ça, c'est apprécié. Mais la liberté, on va trop loin avec dans ce monde, c'est au sens que maintenant on peut faire ce qu'on veut. On est notre propre Dieu quasiment. Il n'y a plus rien de bien de mal, ça dépend de nous. Sinon, on considère pas une chose de mal, elle n'est pas mal, alors vraiment, ça dépend. Mais non, ce n'est pas ça la liberté. Chacun suivait sa propre voie, c'est d'être rebelle à celui qui connaît tout, le bien et le mal, et qui connaît la différence entre le bien et le mal. Et quand la société dit « Oh, tu peux faire comme tu veux, tu peux vivre avec qui tu veux, tu peux avoir des enfants avec qui tu veux, pas besoin d'être marié, pas besoin de ci, pas besoin de ça. » Non, Dieu dit « Wow, l'amour, le vrai amour, un homme qui s'engage à une femme et qui reste fidèle, les deux restent ensemble fidèles jusqu'à la mort. » Et dans ce contexte-là, ils ont des enfants qui vont être sécures parce qu'ils savent que papa et maman vont être là. Ils vont s'aimer l'un l'autre et ils vont aimer, moi, le fruit de leur union. Ah, ça, c'est d'un bon contexte. Mais dans cette société, oh, fais comme tu veux, à l'âge que tu veux, avec qui tu veux, fais ce que tu veux. Chacun suivait sa propre voie. Alors, le refrain, Juges 17, 6, vous êtes là? Qui veut lire Juges 17,6? Oui?
En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, justement, c'est encore un autre refrain. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils étaient dans toutes sortes de perversions, d'orgueil. Ils étaient inconscients du mal qu'ils faisaient. Parce que ça leur semblait pas mal. Alors, Dieu nous dit, quand on n'est pas soumis à Dieu, eh bien, c'est le péché. Alors, il y a un trône. Il y a un trône dans là, ce qu'elle nous dessine. Romains 10, 1, 4, le verset principal, « Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Très bien, je vais le recommencer. Il y en a qui étaient alertes, il y en a qui ont été pris par surprise, que j'ai été trop vite. Alors là, je vous donne un peu plus de temps. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyez-vous, quand on a Dieu sur le trône, on va être soumis. Soumis à sa manière de se convertir, soumis à sa justice. Que ce n'est pas essayer de mériter notre ciel. La justice de Dieu, c'est quelque chose qu'on a accepté par grâce. Christ a payé cette justice. Lui, il a obéi en tout point. Il n'a jamais péché. Et il a été puni pour les péchés. Alors, pas pour les siens. Sa justice nous est donnée. Nous qui avons fait le mal et qui méritons mourir, lui, il a été puni à notre place. Il a subi la mort. Et il nous offre sa justice si nous, on accepte de dire, OK, notre injustice est mauvaise, je suis coupable et je mets ma confiance que c'est Jésus qui a payé pour la justice. J'accepte sa justice. Mais c'est une soumission. Et c'est une soumission de cœur qui va donc avoir cet esprit d'accepter que Jésus n'est pas seulement sauveur, il est Seigneur. Et regardez, on va lire ensemble Luc 6, 46, il n'est pas en caractère gras, mais on va le considérer caractère gras ensemble. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors Jésus, il est très pratique, très simple. La soumission, ce n'est pas juste de parole, c'est du cœur, c'est les actions, oui, c'est les paroles aussi, c'est les pensées aussi, mais ça doit être le tout, ça doit venir du cœur. Alors, être soumis à, là, il vous manque un mot dans votre page, être soumis à l'autorité. Autorité. Être soumis à l'autorité de Dieu, ce n'est pas suivre sa propre voie. On ne peut pas suivre Dieu et juste faire à sa tête. Suivre le christianisme comme nous on l'entend. On doit se faire dire qu'est-ce qui est quoi et comment vivre dans tous les domaines de la vie par Dieu. C'est se soumettre à ses plans, autant dans la famille, c'est Dieu qui a établi la famille. C'est Dieu qui a donné la charge d'aimer, de servir au mari. C'est pas pour profiter, c'est pour aimer et servir comme Christ. C'est la femme doit être soumise comme un appui d'aimer et d'être soumise à son mari. Les enfants doivent obéir, les parents doivent élever leurs enfants. Donc c'est la famille, c'est Dieu qui a institué l'autorité dans la famille. Dans l'église locale, c'est un mot qui vous manque. L'église locale, c'est Dieu qui a établi. Jésus a dit à ceux qui se convertissent, faites-vous baptiser, puis ensuite grandissez dans l'enseignement des apôtres, comme il dit dans Acte 2. C'est Dieu qui veut que les croyants s'unissent ensemble pour obéir en tant qu'église locale à la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a dit dans Hébreux 10, 24 et 25. Hébreux 10, 24 et 25. Quelqu'un pour lire Hébreux 10 et 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore lu qui aimerait lire? Ok. Oui, mon épouse.
Les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et au bonheur.
Et ça inclut verset 25, vas-y.
N'abandonnons pas notre assemblée, c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous pourrez s'approcher de Dieu.
Alors, c'est le plan de Dieu que quand on se convertit, on s'unit avec d'autres croyants dans une église locale pour suivre la parole de Dieu, pour s'encourager ensemble. C'est pour ça qu'il dit aussi dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Alors, pensons ceci. Là, il y a un trône dans la caverne. Et il y a une personne qui se dessine devant. Pouvez-vous deviner quelle sorte de personne est-ce qui est devant? Il a l'air de quoi? De quelqu'un qui a vécu en Égypte? Quelqu'un qui a vécu en l'an 1800? Ou quelqu'un qui a vécu dans le temps de Jésus? Il a l'air d'un Romain. Mais est-ce que c'est un civil romain ou est-ce que c'est un soldat romain? Un soldat romain. Alors une garde. C'est une garde. Quelqu'un qui garde l'entrée de la caverne. Alors, pensons ceci. Si le garde était assis sur le trône, est-ce qu'il pourrait garder bien? Est-ce qu'il pourrait bien garder? Non. Mais le trône, le garde garde le trône pour l'occupant du trône. Dieu qui est invisible, qui est esprit, il n'est pas représenté. Mais si le garde est sur son propre trône du cœur, bah, il ne peut pas garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire laisse Dieu régner. Et assure-toi de garder qu'il règne toujours. Parce que si tu es sur le trône de ton propre cœur, eh bien, tu ne pourras pas être à l'entrée, tu ne pourras pas guetter, et il y aura des mauvaises influences, il y aura la mort qui va rentrer, il va y avoir des choses qui vont ruiner les sources de la vie, comme nous dit bien le proverbe. Alors là, ça se développe un peu, vous pouvez commencer à voir le sujet. Garder son cœur comme un garde, parce qu'il dit, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors pensons à ceci. Quels sont les ennemis possibles? Le garde, il est vigilant. Il sait que peut-être qu'il n'y a personne là en ce moment, là, parce qu'il n'y a personne de dessiné. Peut-être qu'il va en avoir. Elle va peut-être nous faire une surprise puis dessiner un monstre tout d'un coup. Mais le garde, il s'attend à ce qu'il y ait des ennemis qui viennent le défier pour prendre le cœur. qu'est-ce que ces ennemis peuvent-ils être? Alors, les ennemis possibles, la séduction de ce monde. On l'a déjà vu dans Deutéronome. Ne vous laissez pas, ne laissez pas votre cœur être séduit. Donc, la séduction de ce monde. Il y a un exemple dans 2 Timothée 4:10, d'un homme qui avait servi Dieu, qui avait marché avec Dieu, qui avait professé Dieu comme son Seigneur et Sauveur un certain temps, mais à un moment donné, on va lire ce qu'est-ce qui est écrit. Lui, 2 Timothée 4:10, quelqu'un pour le lire? Oui, Martin-Zi? Ah, je vais pas entendu. Allez-y, bien fort.
Car Damas m'a abandonné par
amour pour le siècle présent.
Il est parti pour
Thessalonique. Alors, Damas, alors c'est là, Damas. Damas. Malheureusement, son nom, on le retrouve dans la Bible ailleurs pour dire qu'il était un coéquipier de Paul, il servait. Mais là, comment est-ce qu'il a fini? Il n'a pas fini comme un garde devant son cœur, il a fini sur le trône de son propre cœur et toute la ruine qui s'en est suivie. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors pour lui, il était comme un garde. Et que ce soit la séduction de ce monde, ça peut être une femme vient pour le séduire. Ça peut être une belle auto vient, puis ah là là, je veux des choses, des choses, des choses. Peut-être c'était la forme d'une carrière. Oh là, puis en suivant ta carrière, abandonne Dieu, hein, parce que ici on n'a pas de moralité. Hein. Ici on va se faire un grand nom. La carrière compte. Ah, peut-être la popularité, devenir un joueur de foot, ou peut-être simplement. Ouais, je veux juste me faire une petite cabane tranquille dans le bois, puis une fille, comme je veux. Oh, je ne sais pas quelle forme. Mais l'amour de ce monde, vivre pour maintenant. Peut-être c'était bien banal, comme la plupart des gens autour de nous, se faire sa petite vie, tralala, faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on peut trouver comme travail, etc. Mais c'était l'amour de ce siècle. Et au lieu de rester vigilant, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Ça me plaît ça. Oh, j'abandonne ça. Et je vais suivre l'amour de ce siècle. L'amour pour le siècle présent. Maintenant, prenons un autre exemple. De qui il parle? 1 Roi 11:3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ses femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. 1 Roi 11:9, finalement, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Alors Salomon est un exemple de quelqu'un qui n'est pas resté au poste. Il a écrit probablement Proverbe 4:23. Salomon a écrit beaucoup des proverbes. Mais Salomon n'a même pas appliqué ce qu'il a écrit lui-même. Il avait écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Car de lui sortent les sources de la vie. Mais Salomon, peu à peu, il s'est dit « Pour des raisons politiques, je vais marier la fille de Pharaon. » Faire la paix. Elle est idolâtre, je vais lui faire une invitation à elle toute seule dans le coin là-bas, là, parce que. Après ça, il s'est dit j'ai beaucoup d'autres pays autour de moi, je vais faire des alliances politiques, je vais marier beaucoup de princesses. Mais ensuite, il s'est dit en fin de compte, 300 concubines de plus, allez. Puis ensuite, vous savez, ces femmes-là, en fin de compte, il faut quand même s'en occuper, alors. Elles sont idolâtres, mais parle-moi de ton Dieu. Et en fin de compte, à la fin de sa vie, il adorait ces dieux-là. Et pour vous dire, les faux dieux n'étaient pas des dieux anodins, qui ne faisaient pas de mal. C'était des faux dieux non seulement qu'ils enlevaient à Dieu l'honneur d'être Dieu, Mais il y avait la méchanceté aussi. Il n'avait accès à Moloch. Moloch était un dieu à qui on sacrifiait des bébés. Il le chauffait plein et on mettait un bébé vivant qu'il avait brûlé. Horrible. Et Salomon a joint l'adoration de Moloch. Est-ce que son cœur s'est détourné? Oh là, c'est triste. C'est triste. Mais justement, garde ton cœur, parce qu'on a tous le genre de cœur qui ferait ce que Salomon a fait. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu aseptisé. Mais aujourd'hui, encore là, on fait le même genre de choses. Pourquoi est-ce qu'ils offraient les bébés? Premièrement, ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils voulaient avoir le plaisir de relations conjugales sans être mariés, pas nécessairement. Et si on a des enfants, bon, on va les sacrifier, on n'aura pas à nous en occuper. Et on va le faire sous une apparence de religiosité à cette fausse idole, à cette idole. Aujourd'hui, on a peut-être abandonné l'idole, mais on a gardé la même excuse. Je vais avoir des relations avec qui je veux quand je veux. Si on sort un enfant, ben, je peux l'avorter. Pas d'enfant à m'en occuper. C'est la même chose, c'est la même méchanceté. C'est moi sur le trône de mon cœur. Je veux ces plaisirs-là. Je veux faire ce que je veux quand je veux. Je veux pas de responsabilité. Je veux pas démontrer d'amour envers un enfant du monde. Non! Je veux l'enlever. Alors, c'est le même genre de choses aujourd'hui. Chacun suivait sa propre voie. Salomon, malheureusement, est un exemple d'avoir détourné son cœur, de ne pas avoir gardé son cœur. Regardons un autre exemple, l'orgueil. De qui il parle ici? 1 Samuel 15, 17, 17. Qui veut lire 1 Samuel 15, 17? Samuel dit, quelqu'un. Oui, Rachel.
Samuel dit, lorsque
tu étais petit à tes yeux,
n'es-tu pas devenu le chef et celui de ta mère? Pourquoi la terre est coupée de la foi de ta mère? Pourquoi es-tu jeté sur le côté de la foule et la foule de ta mère?
De qui on parle? Est-ce que vous avez reconnu de qui on parle? Le roi. Non, Samuel parle à cette personne. Samuel parle à cette personne qui était petit, quand il était devenu roi, mais là, maintenant, il s'est permis toutes sortes de choses. Et maintenant, il se permet de ne pas vraiment obéir à Dieu. Saül. Très bien, Saül. Le roi Saül. Quand son cœur était petit, au sens, quand il était humble, Dieu l'a choisi comme roi. Mais il a laissé son cœur s'enfler. Et on ne laisse pas son cœur s'enfler sans se mettre soi-même sur le trône de son cœur. Et quand on est sur le trône de son cœur, on n'est pas devant pour le garder. Et c'est là le problème avec Saül. Il a suivi sa propre voie à cause de son orgueil. Dernière page, Proverbe 28, 26. Qui veut lire Proverbe 28, 26, Raymond?
Celui qui a confiance
dans son propre cœur
est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.
C'est ça. Quand on a l'orgueil puis qu'on se confie dans notre propre cœur, Saül se confie dans son propre raisonnement, il se trouvait des raisons et son cœur s'était détourné de Dieu. La fausse religion. Les pharisiens qui suivaient leur propre idée de religion. Oh, ils étaient très religieux. Ils suivaient le Dieu de la Bible, entre guillemets. Mais ils étaient tout autre chose à l'intérieur. Matthieu 27, 23, 27 et 28. Qui veut lire Matthieu 23, 27 et 28? La volontaire. Alexandra.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui,
au dedans,
sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste homme, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrites et d'iniquités.
Ah ouais, moi aussi j'étais en retard là. Au dedans, on va tous le dire au dedans. Dieu voulait que ce soit au-dedans, qu'on soit pur. Eux, ils avaient l'extérieur tout bien. Et dimanche, ils s'habillaient bien pour aller à l'église. Est-ce que c'est mal de s'habiller bien pour l'église? Non, mais c'est pas ça qui compte en soi. Hein, on porte ce qu'on a. Si on peut s'habiller plus proprement dimanche pour venir à l'église, c'est bien. Mais c'est pas ça qui compte, parce qu'on peut bien s'habiller puis être très moche à l'intérieur. Et Dieu, il dit aux pharisiens, vous occupez tout l'extérieur, pour être bien vu dans la société, pour être bien vu par vos proches. Vous êtes pourri à l'intérieur. L'orgueil, la méchanceté, l'orgueil, le mensonge, toute espèce d'impureté. Il y a aussi l'apparence de religion. Ésaïe 29, 13, quelqu'un pour lire. Matthieu, Ésaïe 29, 13. Marie-Herline, vous avez la main levée tout à l'heure, vous voulez lire Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, sous l'apparence de religion. Ésaïe 29, 13.
Ok, d'accord. Ok. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais
son cœur est éloigné de moi.
Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine.
Alors Dieu, il voit, si on fait simplement suivre les formules, suivre ce qu'il faut dire, suivre ce qu'il faut faire, mais le cœur n'est pas là, le cœur est ailleurs. Et l'exemple de cela, c'est Simon le magicien. Simon le magicien, dans l'acte 8. Dans acte 8, on voit l'exemple de Simon. Il a vu que d'autres se sont convertis à Jésus, qu'ils se sont fait baptiser, alors lui, il a cru en Jésus, mais pas du fond du cœur. Et j'en ai vu aussi à travers le temps des personnes qui ont fait des professions de foi et ils ont répété tout ce qu'il fallait dire. Ils ont compris de la tête, oh oui, je crois en Jésus qui est mort pour moi, qui est ressuscité, c'est par la grâce seule, j'étais perdu, maintenant j'accepte Jésus. Ils ont tout dit ce qu'il fallait dire, mais leur cœur, c'est autre chose. Le cœur, on ne le voit pas, nous les humains. C'est avec le temps que ça se démontre. Et Simon le magicien, un peu plus tard, là, il voit que Pierre avait mis sa main, imposé les mains sur quelqu'un pour faire venir le Saint-Esprit pendant encore l'aspect de transition. On l'a vu il y a quelques mois, que dans le temps où Dieu a établi le baptême du Saint-Esprit, là, il a utilisé Pierre pour établir que les Samaritains recevaient le Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, Simon a vu ça, il dit, ah, j'aimerais pouvoir acheter ce pouvoir-là. Et Pierre a vu ça, et Pierre lui a dit, que ton argent périsse avec toi. Pierre a vu qu'il était dans le fiel amer, les liens de l'iniquité. Pierre voyait qu'il n'était pas vraiment converti. Il avait beau peut-être dire tout ce qu'il fallait dire, faire ce qu'il avait à faire, il s'était fait baptiser en témoignage d'avoir cru, mais son cœur, c'est autre chose. Le temps révèle. Donc, c'était une apparence de religion. Et le dernier, les persécutions. Les persécutions. Là, pour l'instant, on a vu beaucoup de choses, que c'est les séductions des plaisirs de ce monde, l'orgueil. Mais là, ça va être garder le cœur contre... Alors, tout ce qu'on pouvait souffrir pour Jésus. Alors, les Hébreux. Dans les Hébreux, les Juifs qui se sont convertis à Jésus à ce moment-là, beaucoup d'entre eux étaient menacés d'être persécutés par les autres Juifs. Et ils étaient tentés de croire qu'ils se sont trompés. Ils vont revenir au judaïsme. Et l'auteur d'Hébreux leur dit « Attention !» Parce que c'est Jésus vraiment la vérité. Jésus est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Et faites attention de ne pas être comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas vraiment cru. Ceux qui se sont fait dire toutes les promesses, mais qui n'ont pas cru. Alors c'est pour ça que là il dit, et on va le lire ensemble, tous ensemble, le verset ensemble, prenez garde, Hébreux 3, 12, prenez garde, frère, ça vous est donné sur votre feuille, Hébreux 3, 12, ensemble. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors justement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Ça, ça parle à quelqu'un qui professe croire et qui par la foi donc que le Dieu sur son trône, c'est la clé d'une vie éternelle, mais il sait qu'il y a des dangers qui guettent son cœur. Son cœur, et peut-être que là on peut fermer les fenêtres, les portes temporairement juste pour voir un peu plus le cœur que ce garde. Voyez-vous, le garde, il garde son cœur. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Que quand on se convertit, ce n'est pas simplement faire une profession de foi, pas simplement faire une formule, pas simplement s'adonner à une nouvelle religion, pas simplement etc. Mais se convertir de cœur, sachant aussi que notre cœur va être testé. Il va y avoir des ennemis qui vont attaquer. Mais ce n'est pas grave. On garde notre cœur parce qu'on sait qui est sur le trône. On sait que c'est Dieu qui va nous garantir la vie éternelle. Alors on prend au sérieux. On ne va pas chanter comme il faut les dimanches. Et puis ensuite, lire sa Bible, faire des partages. Puis durant la semaine, pendant que personne ne nous voit, là on s'adonne à toutes sortes de choses. Parce qu'on est toujours sur le trône de son propre cœur, et on s'adonne à toutes sortes de choses que nous, on aime beaucoup. Non, c'est pas pour jouer à un jeu que Dieu veut qu'on se convertisse à lui. C'est pour dire, Dieu, je te donne mon cœur, et maintenant je vais faire attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont chercher à avoir mon cœur. Peut-être c'est une femme, peut-être c'est une carrière, peut-être c'est l'orgueil, peut-être mais Dieu, je sais qu'au départ, mon cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. C'est toi qui m'as donné un nouveau cœur le jour où je me suis converti. Et bien maintenant, je vais faire attention à mon cœur. Je vais serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je vais continuer. Comme Jésus dit, si quelqu'un, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le fait de garder son cœur démontre sa vraie foi à long terme. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de ça que ça parle. Ça résume le besoin de ne pas juste faire une profession de foi, mais de vraiment, de tout son cœur, dire Dieu, c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es sur le trône de ma vie, et je vais garder mon cœur de toutes les choses qui cherchent à l'avoir. On va le chanter une dernière fois. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Alors, qu'en est-il de vous, chers amis? Parce que premièrement, vous vous êtes convertis de cœur à Jésus. Si ce n'est pas encore fait, faites-le même aujourd'hui. Convertissez-vous à lui de cœur, mettez votre confiance en lui. Et ensuite, vous pouvez commencer à garder votre cœur. Si vous avez fait une profession de foi, est-ce que c'est vraiment de... Vous faites attention. Par la foi que vous avez en Dieu, vous voulez faire attention à votre cœur, parce que vous savez que bien des choses vont chercher à séduire votre cœur. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. C'est toi le Dieu qui est créateur, c'est toi le Seigneur de tout. Tu veux aussi être notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, c'est toi qui nous as créés en tant que à ton image des personnes avec un cœur, avec un centre de personnalité. Et Seigneur, tu veux qu'on puisse être entier et avoir un cœur. Tu veux nous donner l'abondance de la vie. Tu sais que la clé, c'est notre cœur. Tu ne veux pas simplement notre tête. Tu ne veux pas simplement nos paroles. Tu veux notre cœur, Seigneur Dieu. Ce monde aussi mortel et aussi décadent qu'elle est, veut aussi notre cœur. Seigneur, on te prie donc que tu puisses sonder les cœurs de chacun et que tu puisses toucher le cœur de chacun. Et Seigneur, s'il y a ici des gens qui ne te connaissent pas encore vraiment comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses vraiment toucher leur cœur, mettre ton doigt sur leur cœur, qu'ils puissent réaliser leur perdition, leur incrédulité, afin qu'ils ne soient pas avec un cœur mauvais et incrédule pour se détourner du Dieu vivant. Ô Seigneur Dieu, touche les cœurs, Seigneur, de ceux aussi qui professent vraiment voir si c'est la vraie foi, si le cœur y est. Seigneur, on te prie ces choses au nom de Jésus.